Cook, toujours dans la partie Israël ou Trieste. Il y a eu la différence entre. On a dit qu'il y avait deux. On regarde les événements du monde par des simplement des actions qui se s'enchaînent par des causes géopolitiques. Regarde la raison morale de ce qui se passe dans le monde. Ok ? On avait donné l'exemple de, par exemple, Khurban HaBayit en Mamlechet Shlomo. Comment ça se fait que d'un côté, Mamlechet Shlomo, elle est très très puissante ? Comment ils t'expliquent ça à l'université ? Ils te disent parce que il n'y avait pas l'Égypte, l'Égypte était en train de mourir, que d'un autre côté, il n'y avait pas encore l'avènement de Babylone et machin. Donc, tout d'un coup, la Mamlechet Shlomo, elle pouvait servir de pont intercontinental et donc il y avait énormément de puissance à ce royaume-là, machin. Alors que, d'un point de vue Torah, c'est parce qu'on est en train de construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire ? Donc, est-ce que tu regardes le monde avec un œil sibati ou avec un œil moussari ? Nous sommes arrivés donc. À mon avis, aval, d'accord ? C'est... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lignes en partant du bas. Tu vois ?
Aval, be'et, asher.
Voilà. C'est-à-dire ? Donc... Aval, ve'et asher anu olim lemala yoter eliona shel cherut nisgava. Lorsqu'on décide de s'élever à une dimension de liberté plus grande, au niveau donc de la neshama, az anachnu mishtacherim mikol ota mu'aka asibatit. On n'est plus tenu uniquement d'analyser le monde par les événements historiques, géopolitiques et ainsi de suite. D'accord ? Donc on peut s'élever à quelque chose de plus haut. אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית וכל הבניין החוקי מצטיר לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה שהעידוק והאימוץ שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ ועוד יותר מחותב מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית. Quand on arrive à s'élever au-delà simplement des causes-conséquences techniques du monde et qu'on s'élève à la dimension moussarite, alors on arrive à une compréhension qui n'est pas moins grande, bien au contraire, puisqu'elle va jusqu'à l'origine des choses. Parce qu'en vérité, quand tu regardes uniquement la sibatiyout, voilà, pourquoi il y a la situation ? Parce que aujourd'hui, je donne un exemple actuel pour nous les francophones qui connaissons ça bien. Ce que fait, par exemple, M. Éric Zemmour, c'est la Havana à Sibatit. C'est-à-dire, pourquoi la situation de la France, elle est comme ça ? Ben voilà, je vais t'expliquer. Parce qu'il y a eu ça il y a 30 ans, parce qu'il y a eu ça il y a 40 ans, parce qu'il y a eu ça, ça a emmené un événement, une boule de neige, machin, nan, nan. Sauf que toi, tu dis, mais deux secondes, ça c'est intéressant, mais c'est quoi la valeur morale qui se cache derrière tout ça ? Quand on te parle de guerre de civilisation et tout ça actuellement, on ne fait que de l'analyse. La civilisation judéo-chrétienne, elle propose ça. La civilisation musulmane, elle propose ça. On ne veut pas que ça remplace. Mais d'accord, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que propose la civilisation occidentale ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que propose l'islam au niveau moral, au niveau de la relation entre l'homme et Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, ce n'est pas fait. Donc, on dit le Rafou.
Il en parle. Hein ? C'est un petit peu quand même.
Ah bon ? Bien sûr, on sait ce que l'islam veut, mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, pas seulement ce que l'islam elle veut, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, on va pas rentrer dans le débat.
La chrétienté pendant 2000 ans, on savait très bien ce qu'elle faisait.
Mais c'est pas ça que j'ai dit. On sait ce qu'elle fait, mais est-ce qu'on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand la chrétienté, elle te dit, je te donne un exemple, quand la chrétienté, elle te dit que l'idéal, c'est de ne pas se marier. C'est un fait. Puisque l'idéal de la chrétienté catholique, c'est que les prêtres ne se marient pas. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau moussari, au niveau moral ? Ça veut dire que tu es une religion qui est basée non pas sur la vie, mais sur la mort.
On ne voit bien ce que ça va amener.
Et donc, ça va amener énormément de déviance. Mais les déviances, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends?
Et les gens, ces prêtres là, sont mariés avec le peuple et avec Hachem. Il y a une sorte de d'intermédiaire.
Donc, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir se marier avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ma relation, elle est tournée vers le monde, ou est-ce qu'elle est tournée uniquement vers les cieux? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que pour moi, donc, ça représente que l'idéal, c'est de dévoiler Dieu ici, ou que l'idéal, c'est de rejoindre Dieu là-haut? Ça, c'est une analyse qui est complètement différente.
Ok,
donc c'est une approche complètement différente. Ok. ועוד יותר מחותב מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו באין ארוך. Et c'est beaucoup plus grand d'appréhender le monde de cette manière-là que de la manière simplement cause à effet. אז אנו עומדים בעולם של חופש. כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו מרומם הוא את העולם החוקי הסיבתי כולו ומושכו אליו. Quand tu dévoiles la dimension moussarite, le pourquoi des choses, alors le comment des choses, tout d'un coup, prend une valeur beaucoup plus vraie. Je viens de donner un autre exemple, on sort de Eric Zemmour.
Moussar, c'est moral.
Moussar, c'est moral, oui, exactement. Viens, on sort deux secondes de M. Zemmour et on rentre dans quelque chose de, qu'il a un petit peu précédé. À Big Bang. Hein, le Big Bang. J'ai vu que tu parlais de M. Bogdanov qui a rejoint son créateur.
Les deux sont morts.
Quoi, les deux?
Les deux.
Mais merde.
J'étais surpris du
truc. Eh ben.
Non, vacciné les deux.
Ah quoi, c'est le Covid? Ah ouais?
Covid les deux.
Incroyable.
6 jours après.
On répète bien les médias, c'est bien. Il faut bien chercher peut-être la cause derrière pour voir.
Bon, je ne savais pas, eh bien écoutez, voilà, les Ilui Nishmatam, hein, qu'est-ce que tu te dises? Non, mais ils ont beaucoup parlé, eux, d'Afka, ils essayaient de chercher la notion moussarite derrière tout ça, à leur dimension, à leur niveau. Mais quand tu parles, par exemple, de Big Bang, c'est-à-dire qu'ils vont te dire, la planète Terre, comment est-ce qu'elle a été créée? Ben, y a un amas de poussière qui se sont mis ensemble, qui se sont agglomérés, machin, parce que lorsque le Soleil s'est créé, ça a fait une réaction. Mais en fait, le Soleil s'est créé parce qu'il y a eu une connexion de plusieurs étoiles et la galaxie. Et on remonte, et on remonte, et on remonte. Et on remonte jusqu'au Big Bang. Vous vous rappelez de ces deux ingénieurs en télécommunication? Je ne me rappelle plus de leur nom. Il y a deux mecs, ingénieurs en télécom, qui ont reçu le prix Nobel parce qu'ils ont trouvé bêta-out ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, ou alors en français le rayonnement fossile, ou alors en français, tu sais, il y a une époque, vous connaissez ça, je vous parle d'un truc que les jeunes ne peuvent pas connaître, mais il y a une époque où dans les maisons il n'y avait pas un grand rectangle collé au mur qui projetait des images, il y avait une boîte qui projetait des images, une petite boîte qui projetait des images. Hein, vous connaissez ça? Ça s'appelait un téléviseur.
Hein, c'est
pas l'écran plasma, non, ça s'appelait un téléviseur. Et des fois, quand ton antenne de ton téléviseur ne marchait pas très bien, il y avait ce qu'on appelle la neige. Hein, le brouillard, la neige. Eh bien, ces deux ingénieurs qui sont venus réparer ça dans une parabole, machin, nanana, en fait, ils se sont rendus compte que cette neige-là, c'était un vestige du Big Bang.
Quoi?
Un vestige du Big Bang. Ils ont reçu le prix Nobel de physique pour ça. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Maintenant, oui?
Le 25 décembre,
oui,
a été envoyé fusée Ariane 5,
oui,
avec un télescope qui s'appelle James Webb. Mm-hmm. Et son but de ce télescope, il est parti vers le Soleil. Et il doit, enfin, le but c'est ça, c'est d'aller savoir exactement ce qu'il y avait avant le Big Bang.
Alors ça, c'est très compliqué. Je ne sais pas si on va y arriver. Ben, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, on t'explique, au niveau scientifique, on arrive à t'expliquer, donc, de manière plus ou moins claire, depuis, pas le Big Bang, parce qu'on n'arrive pas à remonter jusqu'au Big Bang, on arrive à remonter pour l'instant jusqu'à ce qui s'appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est 10 puissance moins 33 secondes après le Big Bang. Bon, c'est très très peu, mais ce n'est pas le Big Bang exactement. En tout cas, on arrive à dire, maintenant, Besséder, nous dit le Rav Kook, dans le livre L'Inevuché Ador, chapitre 4, que le Big Bang, c'est génial. Alors, on commence à parler de la théorie du Big Bang à ce moment-là. Il dit, mais c'est génial le Big Bang. Parce que qu'est-ce qu'il dit, en vrai? Mais ils ne savent pas qu'ils disent ça. Mais ils disent quoi? Ils disent qu'à l'origine, il y a un truc, et c'est devenu plein de choses. Nous, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est pas chouette. C'est-à-dire qu'au niveau sibati, il y a eu un événement, cause à effet, machin. Mais au niveau moral, ça veut dire quoi? De cause à effet, elle prend une dimension beaucoup plus importante. Ok? C'est ça que nous dit le Rav Kook ici. Beseder. Mashpia alav meoro venimtsa sheu kulo tavua beyam shel or chaim ze shel achukim amusariim shem arbe elyonim venisgavim achukim asibatim. Donc une fois que tu as relié la cause à effet avec la morale, eh ben alors tu donnes une dimension beaucoup plus importante à tout ce qui est cause-effet. D'accord? Agave, on parle du Big Bang, ça marche aussi au niveau beaucoup plus simple avec nos enfants. Hein. Ils pleurent. Lama. Est-ce que c'est simplement parce que son frère l'a tapé? Ou est-ce que Behemet, lama? Ça dépend. Eh ben, la façon dont tu regardes la chose, ça va être complètement différent. Parce que son frère l'a tapé, c'est pas ça qui le fait pleurer, en vrai. En vrai, tu sais bien que c'est pas ça qui le fait pleurer. Parce que, à moins que son frère, il ait une force fantastique et qu'il lui a fait vraiment très 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 mal, mais la majorité des pleurs entre frères et sœurs, c'est pas parce qu'il a eu mal au niveau physique. Ah, ça peut être la vexerie, ça peut être le sentiment d'injustice, ça peut être le fait que papa, il a pris fait et cause pour lui, alors qu'en fait, c'est lui qui a commencé. Machin, l'âme. Ok? Et donc, à ce moment-là, les pleurs de l'enfant, ils prennent une dimension complètement différente. Ok? Donc, à Sibatiout, elle doit servir la Moussariout, et pas l'inverse. D'accord? Ok. Ou kshanu ma'amikim badavar arenu motzim acharkar gam et kol apratim shel ha'olam ha'sibati kulam omdim betavnitam ha'me'ule ba'olam ha'moussari ha'male ziv. Comme on a dit, on arrive après à réunir toutes les choses qui sont dans ce monde de relations de cause à effet pour donner une mimal laem. Ou kshanu mistakelim bekesher a Torah ima uma. Lorsqu'on regarde maintenant le lien entre la Torah et le peuple juif, brit kruta la laaretz velaam she keshe devekim ba'ashem Elohim hare hem matzlichim olim umitpatrim משתרשים בארצם ועושים חיל וכשזונים אחרי אלוהי נחר הארץ הרי הם מתדלדלים ונופלים חורבן האומה והארץ בא וצרות וכליונות הולכות ובאות. Donc c'est ce qu'on avait donné comme exemple la semaine dernière. Et là, le Rav Kook le dit clairement. Il dit, au niveau de morale, on te dit, il y a une alliance qui est faite entre Dieu et nous. Quand on fait bien, on réussit au niveau du peuple juif. Et en terre d'Israël, quand on se comporte de manière pourrie, ben on ne réussit pas et on part en exil. Ça, c'est au niveau moral. Au niveau de l'historien, lui, il va essayer de t'expliquer par des trucs, machin, techniques et géopolitiques. C'est pas faux. C'est juste que c'est pas la véritable raison profonde. Ok ?
C'est superficiel.
Voilà, c'est la partie immergée de l'iceberg. Émergée. Émergie. C'est toujours là, finalement. Hein, c'est ça. On ne peut pas s'en passer. C'est ça. Kshe'anu mechapsim et apitaron ba'olam asibati, harenu motzim sheruach Israël achuz hu beshalshelet organit chazaka. C'est vrai, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Quand on regarde uniquement les résolutions de tous les problèmes dans le s'y bâtit, une cause à effet, on a toujours une épine qui ne marche pas. Elle s'appelle Amisraël. Ça ne marche pas. Ça ne rentre pas dans les catégories normales d'analyse sibatite. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore des juifs aujourd'hui de Khoutzlaret. C'est pas normal. C'est pourquoi c'est pas normal. Qu'est-ce qui aurait dû leur arriver aux juifs? C'est-à-dire qu'on aurait dû quoi?
Exterminer.
Non! Pas forcément exterminer. Bah, on aurait dû s'assimiler.
Mais malheureusement, il y a beaucoup plus que le double de juifs qui ont été assimilés depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Non, mais ça, oui, mais là, tu regardes. T'as raison. T'as raison. Non, pas plus du double. On parle plus ou moins de la même, du même nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 14 millions de juifs dans le monde. Ça, tu peux pas savoir, il y en a peut-être plus. Mais c'est pas ça que je te dis. Parce que l'analyse, elle est comme ça. Elle est, avant la Shoah, il y avait 18 millions de juifs. Après la Shoah, il y en a 12 millions. OK ? Il y a 6 millions qui sont morts. Aujourd'hui, on est à 14 millions. Alors que, au niveau de la natalité, au niveau de la démographie, normalement, en 70 ans, on aurait dû au moins réatteindre les 18 millions. Et au vu de la natalité du peuple juif, on aurait dû arriver à 21 millions. Et on est 14 millions. Où sont passés les 6 millions? Eh bien, là, tu peux rentrer le vecteur assimilationniste. Mais moi, je ne prends pas seulement le prisme des 70 dernières années. Je te dis sur 2000 ans. 2000 ans où un Israël, il part en galoute dans tous les endroits du monde. Mais il ne doit plus exister, ce n'est pas possible. Il doit être complètement assimilé par les différentes nations. Ben évidemment. Mais combien il reste aujourd'hui de druides? Tu connais, c'est qui le dernier druide que tu connais? Il n'y a plus de druides. Hein, Renor Amix, c'est bien sûr. C'est-à-dire, les amis, la civilisation gauloise.
Cette force de comprendre, alors à plus forte raison, tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'on nous raconte dans cette cause à effet, on ne va pas forcément voir Hachem derrière. C'est déjà ça, dans notre propre cas, on a du mal à comprendre.
Baro!
Tout ce qu'on nous raconte, comme ce qu'il a dit avec les Boganov, c'est exactement ça. Il a fait cause à effet tout de suite. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas vacciné. Et ça s'arrête là.
C'est Nahon, tu as raison, que si on se limite à Sibatiout, il te dit, si tu te limites à la Sibatiout, il y a un truc qui ne marche pas, ça s'appelle Amisraël. Amisraël, Sibatitement parlant, il ne devrait plus exister. Et on est là.
La réponse peut être au niveau mathématique, finalement, ça se rapproche avec tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu 10% pour un dit, donc une partie des blés d'Israël ne sont pas partis au Canaan. Donc, on dit un cinquième est resté.
Non,
est parti.
Il est parti.
Un cinquième. Et ensuite, il y a une assimilation. Donc, une partie de ce cinquième a disparu, etc., etc. Finalement, on arrive toujours à quelque chose d'infini.
Donc, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. La réponse mathématique ne répond pas. Donc
ben oui, parce qu'Am Israël, il aurait dû être assimilé. C'est normal. Oui. Tous les autres peuples qui ont été envoyés en exil, ils n'étaient pas les seuls, n'existent plus aujourd'hui.
Il y a 50 ans de ça, j'écoutais un rabbin qui faisait justement ce sujet-là. Il dit l'assimilation, elle a été plus terrible que la Shoah. C'est-à-dire, on a perdu beaucoup plus dans le peuple juif que la Shoah.
Mais là, vous vous concentrez uniquement sur les 70 dernières années. Je te dis, viens, on va plus loin encore.
Bien
on va encore plus loin.
Il n'y a pas de territoire, rien du tout.
Nahon.
Si je ne raconte pas de bêtises, il me semble qu'on est exactement quasiment le même nombre, 13, 14, 15 millions, qu'aujourd'hui, ils en remontent à la sortie d'Égypte.
Plus ou moins, d'après le Midrash. Enfin, avant qu'on sorte d'Égypte. En Égypte. Pas à la sortie. En Égypte.
Non, à la sortie,
tu ne peux pas arriver à 15 millions. Parce qu'à la sortie, si on est 600 000 hommes âgés de 20 à 50 ans...
On avait fait le calcul une fois.
On va le faire, c'est très rapide. On est 600 000 hommes âgés de 20 à 50 ans qui sortent d'Égypte. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah.
20 à 60.
C'est quoi? Non, c'est 50, mais chez Yé, 60. L'homme chané, l'Okhachou. Donc, tu rajoutes au moins autant... de femmes. Ils sont mariés, les gens. Ils ont des familles. Donc, ça fait déjà 1,2 million. Ils ont...
Un cinquième qui est sorti.
Attends, ils ont, allez, au moins un enfant, deux enfants. C'est-à-dire, donc tu vas arriver à 3 millions allez, 3 millions de juifs qui sortent, et c'est un cinquième du peuple. Donc en Égypte, on était 15 millions à peu près. C'est-à-dire, ce qui est déjà en soi un problème parce que c'est des chiffres qui sont trop, trop grands pour la population de l'époque. Mais l'homme est chané.
C'est possible, puisqu'en 1800, la population européenne, 40 millions.
Donc c'est, non, ça paraît. L'homme est chané. D'autres communautés.
Est-ce qu'il y avait des juifs ailleurs? Il y en avait.
Écoute,
en
pas
Babylone, etc.
Non, pas à ce moment-là, non.
Il n'y avait pas d'autres juifs ailleurs.
Pas qu'on sache, puisque disons que là, on parle des balbutiements du peuple juif. Yaakov arrive avec sa famille. Il n'y a pas d'autres juifs. Donc c'est un peu compliqué. Mais vous savez quoi, l'homme est chané. Moi, c'est ok, on est arrivé, mais vous vous rendez compte que on aurait dû complètement disparaître, comme les autres. On n'aurait jamais dû rentrer à la maison. Ça n'existe pas, un peuple qui revient sur sa terre après 2000 ans d'exil. Donc c'est pour ça que je te dis, si tu regardes uniquement Sibadi, t'as un problème.
Ça, c'est sûr.
Ça a l'air. Donc, « Arenu motzim shiruach Israël achuzu beshalshelet organit razaka. Deotav, ma'alache chayav, megamat panav, betoafat rucho aklalit, ha'emet ha'ediona mitgala bo ve'al yado. » תכונת ארצו וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיהם לשדה חייהם, אכן המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות והנטיות הבונות את בניין הכללי ומבואיהם, בהירות הסקירות, סליחה, המנוחה הפנימית, החזוק, חזוק, סליחה, חזוק הרוח, חיזוק הרוח ושלוות החיים. וואלה, זה תוסה, הכל החוץ. On se rend compte que l'âme d'Israël, elle est très forte. Dans quoi? Mais Déotav. Comment est-ce que Déotav ont influencé le monde?
On est dans le code civil français.
Ah, dans le code civil.
Dans la langue française, il y a plein de mots.
Bah, c'est ça. Ça, c'est Déotav chez l'âme Israël.
Au niveau de la moralité.
Est-ce que tu as entendu parler d'un truc qui s'appelle le monothéisme?
Oui.
Les chrétiens, les musulmans, t'as entendu? Zemedin nous.
Sixième
donc, on a influencé le monde, Bédéoté nous. Zé Aleph. Ensuite, Maalaché Chayav.
Les chrétiens, ils sont monothéistes, les catholiques.
Oui. Non, attends. Les chrétiens, ils se revendiquent, eux, monothéistes. Nous, on pense au niveau halachique qu'ils ne sont pas vraiment monothéistes. Mais ils sont vachement plus monothéistes que les idolâtres de l'époque, d'avant la chrétienté.
Mais pourquoi on ne dénonce pas ce faux monothéisme?
On dénonce.
On dénonce. Mais
en fait, ils se dénoncent.
Oui, non mais on dénonce. Au niveau halachique, je te rappelle que tu n'as pas le droit de rentrer dans une église. Bah, donc on dénonce. Pourquoi tu n'as pas le droit de rentrer dans une église? Parce que c'est un Vodazara. Et donc, Assour, une mosquée, tu as le droit.
Ouais.
C'est ça?
Quoi?
Ah, le Rav Mordechai Eliyahu, il a donné la réponse. Parce qu'il y a plein de rabbins qui lui ont posé la question, est-ce qu'on a le droit pour les cérémonies? Alors il a dit, évidemment que pour les cérémonies religieuses, tu n'as pas le droit d'être là-bas. Mais, Mishum Darke Shalom, dans la mesure où, quand tu vis chez les Goyim, eux, ils viennent à la synagogue pour les cérémonies des morts de la Shoah, machin, nanana. Quand ils t'invitent pour la cérémonie des morts de je ne sais pas quoi, et qu'ils ne font pas un tekes religieux, mais qu'ils font simplement une cérémonie du souvenir des morts, Mishum Darche Shalom, tu as le droit d'y aller.
Ouais.
En aménageant la.
Oui, ça, tu t'arranges, quoi. Ça, donc c'est pour ça que. Mais Stam Kaha, assour.
Je peux aller visiter, par exemple, prendre des photos, c'est n'importe quoi.
C'est assour.
Alors, attends, bleu, je te dis quelque chose.
Oui.
Je te raconte.
Mais je t'en prie.
En 1992, c'était le 500e anniversaire de l'Inquisition, et je me retrouve, j'étais invité avec d'autres médecins à Tolède. Et j'étais avec, entre autres, un ami, Amselem, qui est cardiologue et qui est le fils, qui était à l'époque, le fils du grand rabbin de Monaco. Donc c'était un monsieur très religieux, qui avait toujours la
kippa
sur la tête.
Uriel.
Bon. On se trouve à Tolède et on visite évidemment des églises. Alors, moi d'abord, je n'ai pas voulu rentrer parce que ma femme ne pouvait pas rentrer, etc. etc. Et je vois, comment il s'appelle déjà ?
Uriel
Amselem qui rentre et qui dit avec tous les autres juifs quoi, du groupe. Et je lui dis, mais Uriel, toi, le fils du grand rabbin de Monaco, tu es très religieux, etc. Comment tu rentres là-dedans ? Et il m'explique, c'était un type très religieux, quoi, d'accord, et intelligent, etc. Il me dit, je ne suis pas rentré pour faire une prière, je suis rentré pour visiter un lieu.
Oui, mais enfin je veux pas remettre en cause le truc. Moi, je suis pas. Enfin, je vais t'avouer que je suis pas d'accord avec ça.
Et c'est Monaco.
Oui, justement, quand j'ai fait ma formation de guide. Pouvoir expliquer aux gens. Et je me souviens avoir demandé à l'époque au Rav Cherki, et il m'a dit, il n'y a pas de débat possible, assour. Maintenant, tout ce qui est makom tfila, c'est assour. Machelo makom tfila, moutar. C'est-à-dire, par exemple, tu rentres dans un monastère et que tu es dans la cour et machin, c'est moutar. Mais l'endroit où ils font la prière, donc dans l'église, dans la chapelle, c'est assour. C'est assour. Aujourd'hui, ça a beau être mon métier, je rentre pas dans les églises, malasote.
D'où l'expression « chacun son église ».
Je ne connaissais pas cette expression, mais si tu veux. Bekitsour, donc on a influencé Bedeotenu, on a dit monothéisme. Bemaalache chayav, maze maalache chayav, c'est ce qu'on appelle la morale judéo-chrétienne. C'est-à-dire évidemment qu'on a influé aussi au niveau de comment on se comporte au quotidien, puisqu'on a mis en place. On n'a pas voulu, mais c'est comme ça. On a mis en place ce qui va devenir la morale judéo-chrétienne. Megamat panav betoafat ruach haklalit.
Ça veut dire la morale judéo-chrétienne. Je comprends pas.
C'est-à-dire que tous les idéaux. Je vais t'expliquer. Tous les idéaux de la chrétienté au niveau de la relation Ben Adam Lachavero, c'est du copier-coller du peuple juif que eux ne sont pas capables de réaliser.
C'est ça. Évidemment, quand il dit judéo-chrétien,
c'est juif. Mais vadaï, mais vadaï, mais vadaï. C'est évident. Les chatrayem, tout ça, c'est toute la vitalité qui a été mise en place par le peuple juif. Donc tout ceci est relié maintenant à la Havana Asibatite. Les deux sont reliés. Beota avata an nafshit. של הדבקות בהשם אלוהיו, אלוהי אבותיו הראשונים, המעלה אותו מארץ מצרים מבית עבדים, ומביאהו אל ארץ הברית והשבועה, המורהו בדרכי חיים ונתיבות עולמים, אחוזים הם זה בזה הכישורים. C'est-à-dire que de la même façon que Dieu nous a sortis d'Égypte à l'époque, il nous sort d'exil aujourd'hui. Et nous sommes reliés à lui par le même lien qui a relié Moshe et les Bnei Israël à Dieu à l'époque.
Des épaules de géants.
Ce qui fait qu'on est plus grand.
Ah, vu comme ça.
Bah, si tu es des nains sur des épaules de géants, donc tu es plus grand.
Sibatiquement, tu as raison, mais d'un point de vue plus profond.
Au niveau individuel, on n'est pas Rashi. Nakhon ? On a beau être bon, on n'est pas Rashi. Aval, on est plus grand que Rashi. Parce que nous, on connaît aussi le Rambam. Rashi, il ne connaissait pas le Rambam. Parce que le Rambam, il vient après. On a aussi l'enseignement du Rambam. Ah bah oui, autant d'abord. C'est pour ça que j'ai dit, au niveau individuel, toi et moi, on a des millions d'années-lumière de Rashi, de Rava, de Rabbi Akiva. Il n'y a pas de débat. Mais on est des nains sur des épaules de géants. Donc au final, on est plus grand, puisqu'on profite de toutes les épaules des géants qui nous ont précédés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu comprends des choses qu'à l'époque, il y avait une personne et demie qui comprenait.
Alors, d'où est bien cette rhétorique ? On l'entend tout le temps, ça. On est des nains, on veut nous réduire à un
peu genre. Il y a, alors, le Rav Kook, d'abord, il va nous expliquer, pas ici, mais dans un autre livre, que la dimension de Yeridat Adorot, elle est terminée. Il n'y a plus de Yeridat Adorot, maintenant, il y a Aliyat Adorot. On est en train de grandir nos enfants, ils seront plus grands que nous. Il n'y a pas de débat. Nous, on est plus grands que nos parents.
Est-ce que c'est peut-être lié aussi à la...
À la Géoula, plus de Torah que ton grand-père à ton âge dans ta situation. Me dis pas, non, mon grand-père, c'était le Gdolador en Alsace. Ok, ça va être un cas en particulier. Mais de manière générale, dans la majorité du peuple juif, je te parle deux secondes, on va rentrer dans le monde de la Chassidoute. Ok, je vois Rabbi Yonatan qui est là, qui prépare son shiur de Chassidoute. Donc prenons deux secondes le monde de la Chassidoute. À l'époque de Rabbi Levi Tzrak de Berditchev, à l'époque du Noam Elimelech, à l'époque des grands, grands, grands personnages de la Chassidoute. Am Israël, il connaît rien.
C'est en volumétrie, en fait.
Il a fait. Donc alors,
la Torah,
elle est accessible à tout le monde. Il y a fait. Ce qui fait que tu es beaucoup plus grand. Ce qui fait que tu es beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que j'avais, je vous en avais déjà parlé sûrement, je me rappelle que quand Reb Avrum Shapira il est décédé, et le Rebbe Rabban Lechol Yehoul était décédé, j'ai un sentiment de truc. J'étais voir le Rav Cherki, je lui ai dit, mais tous les grands, ils partent. Et il n'y a pas de nouveaux grands. Il m'a dit, comme quoi, c'est pas sympa pour moi. Et après, il me dit, mais c'est normal. Dis-toi que la Torah, ça doit être une quantité X de Torah qu'il doit avoir constamment dans le monde. Allez, on va dire que la Torah, c'est 100. Maintenant, à l'époque de Rabbeinu Tam, 99% des juifs, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils sont Jumnava. Donc, Rabbeinu Tam, il récupère 90% de la Torah. Et le reste, c'est disséminé chez les juifs. Aujourd'hui, Am Israël, il a 50% de la Torah. Donc les rabbins, ils n'ont plus besoin d'être aussi géants. C'est de ça qu'on parle. Ok ? Bekitso, שפעת החיים הכלליים, סט אבונדנס ג'נרל, אחוזים בריתוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה, מתחלשת. Quand on se sépare de cet מקור, eh bien, tous ces éléments fondamentaux qui sont מקדש, qui sont נבואה, machin, זה מתחלש. Parce qu'on n'arrive plus à connecter. Ok ? Retukot agoy ve'aretz. On est mitrachek. Ok ? Beritouk. Ruach zar ba umefaem ve'ut sommeach ve'ut semach lo yase kemach. Lo yikalet ve'lo yatzmiach. Quand on est influencé plus par notre relation originelle avec la moussar, eh ben, zeruach zar shemagia. Et tu commences à réfléchir avec des idéaux qui ne sont pas les nôtres.
Suivant cette logique, chaque génération nouvelle, elle s'enrichit de ce qui est passé.
Oui, mais des fois, tu t'enrichis de choses qui sont négatives, qui ne sont pas toi, qui ne sont pas aimées. Dès que c'est positif, c'est positif. Mais dès que c'est négatif. « Veinenu roim et amare abba veose shemot ad asher yashuv ha'am el chayav » אל מקור ישעו, ישיב אליו את רוחו, יקשר באומץ לבב וברוח בינה אל שם השם אלוהי ישראל, ומנזלי פלגין של הרעיון הכללי, העמוק והחסון, המתואם לרוח עולמים ולחטיביות המיוחדה של ישראל. ישועה חוזרת ומוארה. C'est-à-dire que le but, c'est de revenir à cette compréhension de l'origine. כל זאת היא בינה גלויה. T'as fait la différence entre ce qui était bon et pas bon, t'as gardé le bon. Akara ma'asit amechaya umeshiva ruach aval miyad anu baim leitromem bechadira yoter penimit shemimal lekol haoreg achuki haze ereg musari natun. On revient aujourd'hui à la notion musarit, à l'origine des choses. Bemusariut re aran aranana amechaya et hashalshelet hasibatit hagedola hazot sham munach כל האומץ, כל הזיו של החיים האלה המתגלים בהופעותיהם, בעזיזות כל כך גדולה, בדיקנות כל כך אדירה. On revient à la מוסריות. On revient à l'origine des choses. ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של אומרה שכח ראוי להיות, שכך ראוי להיות, סליחה, כך צריך להיות, לא רק כך הוא וכך נהיה. Ça, on ne dit pas c'est comme ça parce que. On dit c'est, il faut que ce soit comme ça. C'est ça l'origine. Voilà la raison profonde de pourquoi c'est comme ça. בהכרה שכך צריך להיות ובהתגלותה של הבינה המוסרית, אנו חוזרים אחר כך להכיר את שלשלת החוקית המוסרית בכל פרטיה, בכל עומקה וגובהה, רחבה והיקפה, פנימיותה וחיצוניותה. ההסתגבות, סליחה, הכפולה, חיה ורעננה, מתעוררת אז בקרבו פנימה, מעינות של עצה ותבונה, צביונים, חיים ותחבולות ישרות, הולכים ומתגלים בקרב כל כליות ולב, רוח האומה מתעורר לתחייה, ומחבא החיים אור קדושה וטהרה זורח אורו של משיח. C'est-à-dire que nous revenons, et nous terminons donc ici par ce retour de la Moussariyout, c'est-à-dire de rechercher le pourquoi et non pas seulement le comment. Et c'est ça qui amène à la lumière du Mashiach.